Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Vous êtes commissaire européen, commissaire au marché intérieur, et la crise agricole, elle a révélé un grand nombre de contradictions. Et en premier lieu, entre la France et l'Union européenne. Marché commun, certes, mais avec des règles nationales qui persistent. Et est-ce qu'on peut vraiment rester ainsi, avec des règles parfois contradictoires? Le sentiment, après ces deux semaines de crise, c'est que souvent ça ne fonctionne pas. Et on va essayer de comprendre avec vous si c'est la faute de la France, de l'Europe, ou peut-être un peu des deux. Je voudrais qu'on commence par cette expression qui a été utilisée par Emmanuel Macron, vous qui êtes commissaire au marché intérieur, marché unique. Emmanuel Macron a dit la semaine dernière qu'il y avait une concurrence déloyale, je cite, une concurrence déloyale entre pays membres de l'Union européenne. Et il l'a dit depuis Bruxelles jeudi. Est-ce que les pays européens sont désormais des concurrents ?
Ils ne sont pas des concurrents. Les pays européens, et notamment en matière d'agriculture, font partie d'une politique commune. Du reste, c'est bien comme ça qu'elle est qualifiée. Il n'en demeure pas moins que nous sommes engagés dans une transition, on va en parler très certainement, une transition verte, pour atteindre un objectif de décarbonation à 2050. Et cette transformation, elle impacte tout le monde, et les agriculteurs, bien entendu, on vient de les entendre, j'allais dire, en premier chef. Mais voyez-vous, cette crise, au fond, dans la transition que nous vivons, elle a plusieurs facettes. En Pologne, ce qui est aujourd'hui mis en avant par les agriculteurs, c'est le problème avec l'Ukraine. Aux Pays-Bas, c'est tout ce qui concerne l'utilisation de pesticides. En Espagne, c'est la sécheresse. En France, on l'a entendu, c'est un peu tout ça, et puis c'est aussi le fait que nous avons sans
les
doute
normes,
trop de
normes. Les prix.
Et évidemment, ce qui est important, c'est que toutes ces politiques qui ont été mises en œuvre, avec un objectif au fond, qui était d'avoir plus de sécurité sanitaire et alimentaire, toutes ces normes ont été mises en place avant des événements majeurs qui bouleversent l'Europe et le monde. On a eu évidemment la crise du Covid, on a eu la guerre en Ukraine avec ses conséquences sur la crise énergétique, très important évidemment pour les agriculteurs, sur l'inflation. Toutes ces crises successives, au fond, elles viennent impacter massivement les agriculteurs. Et donc aujourd'hui,
Aurait-elle dû en tenir davantage compte? C'est-à-dire, au lieu de continuer sur sa trajectoire, se dire attention, le contexte a changé. Vous avez quand même cristallisé, alors pas seulement vous Thierry Breton, mais je veux dire la Commission européenne est en train de cristalliser des colères pour n'avoir peut-être pas su voir. On va revenir sur la question du poulet ukrainien notamment, qui cristallise beaucoup, beaucoup des attentes.
Evelyne Malherbe, le sujet, il concerne évidemment les agriculteurs, mais il concerne, je dirais, il nous concerne nous tous. Dans cette transition, nous sommes tous impactés. Et donc tout le problème qui est devant nous, toute la problématique, c'est de trouver les chemins et l'accompagnement, et ne laisser personne sur le bord de la route. Et donc, oui, bien sûr, cette cristallisation, elle s'est traduite par ce que nous vivons en Europe depuis maintenant quelques semaines en ce qui concerne les agriculteurs. Il faut donc, le président l'a dit, faire une pause, c'est-à-dire un point de rendez-vous. Vous savez, moi je l'ai fait aussi pour les véhicules. On a adopté la fin de la vente des véhicules thermiques en Europe en 2035. Eh bien, ça c'est ma responsabilité, puisque je suis aussi en charge de l'industrie. J'ai décidé de faire en sorte que, pour accompagner désormais cet objectif, eh bien, on devait se réunir tous les 6 mois, avec tous les acteurs, avec un point de rendez-vous en 2026 pour faire
c'est
le point.
C'est ça la nouvelle méthode, ça veut
mais
dire
oui,
on va fixer
sûr,
les objectifs, le Green
sûr.
Deal ou la sortie des véhicules thermiques.
Bien sûr.
Mais on commence à dire, attention, on va peut-être faire des pauses quand même.
Mais bien entendu, c'est extrêmement important, parce qu'encore une fois, personne n'a la science.
La tendance
infuse.
Est plus à la pause qu'à l'accélération
non,
quand même
non,
là-dessus, non?
Non, l'objectif doit demeurer, et il demeure. Mais maintenant, voyez-vous, dans les discussions qu'il y a eu, tant du reste à Paris, qui ont été menées par le Premier ministre, qu'à Bruxelles, avec le Président de la République, eh bien, il y avait aussi la nécessité de s'asseoir autour de la table, de voir aussi s'il fallait accompagner, y compris financièrement, certaines filières, certains acteurs, pour pouvoir se donner les moyens, encore une fois, de faire ce qu'il y a à faire. Ces pauses, elles sont indispensables, elles ne veulent surtout pas dire qu'on efface on éradique l'objectif, mais elle nécessite d'avoir beaucoup plus de dialogue. C'est ce qui
et
s'est
on
produit.
Va rentrer dans le détail sur ces points, notamment la loi Egalim, la question du Mercosur, la question des droits de douane, je disais le poulet ukrainien, ou la question du rapport aux engrais et aux phytosanitaires. Loi Egalim d'abord, Emmanuel Macron depuis la Suède, donc la semaine dernière, a affirmé que les centrales d'achat des grandes surfaces, qui négocient donc leur prix hors de l'Hexagone, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne ou au Portugal, constituaient un contournement de la loi française. D'abord, je voudrais voir avec vous, négocier les prix hors de l'Hexagone et ainsi ne pas subir les lois françaises. Est-ce que c'est légal ?
Bien sûr, c'est légal, mais il faut, et c'est là, pour reprendre à votre, revenir à votre première question, c'est là où il faut évidemment une égalité de traitement.
Donc c'est légal, mais c'est pas moral.
La France,
c'est ça ce que vous allez dire.
Non, il faut, moi, c'est mon rôle, maintenant, commissaire au marché intérieur, c'est de veiller précisément qu'on ait, je dirais, un traitement identique sur tous les secteurs industriels de l'Union européenne, de façon à ne pas avoir de distorsion de concurrence artificielle. La France est le premier pays à avoir mis en place cette loi Egalim pour rebalancer quelque part.
Qui vise à payer au juste prix le début de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire l'agriculteur.
Rebalancer la valeur ajoutée qui doit évidemment être préservée en partie, évidemment, et en partie suffisante pour les agriculteurs. On sait qu'elle est contournée par notamment les grands acteurs, les grandes centrales. Et donc, ce qu'a proposé le président de la République, et évidemment, je souscris totalement à cette proposition, c'est de voir comment on peut traiter désormais ça au niveau européen pour que nous ayons une égalité de traitement qui, à la fin, va bénéficier à qui ? Va bénéficier, évidemment, aux agriculteurs, mais aussi aux consommateurs. Donc, il est très important, et là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure,
c'est la crise
de l'inflation.
Vous le tenez devant moi, ici, en France, dans un studio parisien, est-ce que vous le tenez aussi quand vous êtes interviewé, je sais pas moi, par des journalistes allemands ou espagnols, qui ont une autre manière de procéder ?
Je le tiens d'autant plus que c'est précisément mon rôle que de veiller à ce que nous ayons une égalité de traitement partout en Europe. Mais voyez-vous, l'utilisation de pesticides, par exemple, de produits phytosanitaires, la France fait partie des et dans le top 5.
Des pays, c'est presque ce qu'on lui
dans
reproche
le top
aujourd'hui,
5 des pays
d'avoir
européens.
Été un peu trop zélé.
Donc il y a une pause, on regarde maintenant ce qui se passe ailleurs, et c'est pour ça que le président de la République avait du reste évoqué l'idée d'une sorte de force de contrôle sanitaire et agricole, précisément
le
au niveau européen, mais je trouve que c'est une très bonne idée, donc on va en discuter, je trouve que c'est une excellente idée. J'ai déjà mis, moi, une force de cette nature pour veiller que les règles du marché intérieur soient bien appliquées partout, donc lui élargir quelque part des compétences au niveau agricole.
Donc élargir les règles.
Aller dans le bon sens et il faut le faire.
Élargir les règles, c'est-à-dire une sorte d'égalisme européen et se doter d'une force de contrôle. En France, honnêtement, faut le dire, il y a de moins en moins de contrôleurs. Ils ont baissé considérablement le nombre d'agents de la DGCCRF, c'est-à-dire justement cet organe de contrôle. Et on découvre qu'en Europe, il y en a quasiment pas, en fait. Il n'y a pas d'organe de contrôle.
Je n'ai pas à me prononcer sur la DGCCRF, qui est une grande administration et très utile. Hein,
très utile sans doute,
pour les consommateurs.
Mais on nous demande plus de contrôle avec moins d'agents.
Eh bien, il faudra le faire.
Quand même.
Il faudra le faire. Et c'est précisément de tout ça dont il faut discuter, encore une fois, au regard de ce monde qui change, qui nécessite pour nous désormais d'avoir le principe de souveraineté inscrit dans toutes nos politiques de l'Union, y compris dans nos politiques agricoles. Ce principe de souveraineté, qui ne veut pas dire évidemment une autonomie absolue, veut dire qu'il faut désormais que ce critère-là soit pris également en considération dans nos politiques. Et c'est de ça dont on va discuter dans le cadre de cette pause, je l'aurais dit encore très clairement, qui n'est pas une pause contre les politiques vertes et le Green Deal, qui est une pause pour bien veiller à ce que nous accompagnions tout le monde dans la même direction et que nous compensions.
Vous auriez pu décider de tirer tout le monde vers le haut. Au fond, là, l'idée, c'est de tirer tout le monde vers le bas.
Non,
ceux qui ont été un petit peu en avant, on va leur dire calmez-vous, les autres ne suivent pas.
Je ne crois pas qu'on peut dire ça, non. Il s'agit, encore une fois, il y a des pays qui font bien les choses, moins bien les choses. Chacun, vous savez, est différent. Mais l'essentiel, c'est que nous allions dans le même sens.
Je voudrais aussi savoir si, dans les faits, il n'y a pas un décalage entre vos discours et ce qui est appliqué, notamment par les juridictions européennes. Vous dites, là, à l'instant, et c'est ce que dit Emmanuel Macron aussi, qu'il faudra veiller à ce que les lois, notamment françaises, ne soit pas trop contournée, la fameuse loi Egalim. Sauf qu'il y a déjà eu ce cas qui a été déposée à la Cour de justice européenne. En 2022, la Cour d'appel de Paris avait infligé une amende à Eurelec. Eurelec, c'est la centrale d'achat à laquelle participe notamment Leclerc. C'est Bercy, c'est-à-dire le ministère de l'économie lui-même, qui, ayant découvert ce qui ressemblait justement à un contournement de la loi, avait décidé donc de condamner Leclerc. Sauf que Leclerc et sa centrale d'achat Eurelec ont fait appel auprès de la Cour de justice européenne. Et la Cour de justice européenne, je le cite, a finalement tranché en faveur d'Eurelec contre Bercy, jugeant que les juridictions françaises étaient, je cite, incompétentes et en faisant primer le droit du commerce et du libre marché européen et belge contre la France.
C'est bien la raison pour laquelle...
Pardon pour tout ce détail un peu technique, mais je trouve que ça nécessitait, ça fait un décalage dans les faits.
Vous avez parfaitement raison.
On a donné raison aux centrales d'achat qui contournaient la loi.
On est un continent de 450 millions d'habitants. Et ce continent doit être de plus en plus régi par des règles qui sont des règles harmonisées.
Le direz-vous
et
à
donc,
la juridiction
donc,
européenne.
Mais c'est la juridiction européenne à juger en droit. Ça prouve donc qu'il faut bien adapter notre droit. Et c'est tout ce que voulait faire et veut faire et souhaite faire le président de la République avec une loi Egalim européenne qui n'existe pas. Donc la juridiction européenne n'a pas pu s'y référer. Il faut donc qu'elle le puisse. Et pour ça, il faut avoir une loi européenne. Et je vais, de là où je suis, me battre pour aller dans cette direction.
Est-ce que l'Europe ne joue pas contre son camp quand on entend ce genre de juridiction?
Quand la
Cour de justice européenne dit au fond, bah finalement, Leclerc ou d'autres ont raison de contourner la loi, ils ont le droit, ils peuvent aller décider de choisir la loi qui leur est le plus favorable. Il y a ce décalage entre le marché unique et des lois. Au fond, on se demande à quoi sert la loi française.
Je comprends ce que vous dites, mais c'est bien pour cela que nous sommes encore une fois un continent. C'est notre force. Et lorsqu'il y a, pardon cette expression un peu triviale, des trous dans la raquette, c'est exactement ce que vous venez de dénoncer à juste titre. Eh bien, il faut avoir une loi européenne. C'est ce que le président a appelé de ses voeux et on va y travailler.
L'une des demandes des agriculteurs, c'est que dans les cantines notamment ou dans les cuisines des hôpitaux, on puisse acheter en priorité français. Est-ce que les lois européennes le permettent?
La réponse est oui et nous faisons maintenant dans la quasi-totalité de nos appels d'offres, précisément lorsque ceux-ci sont initiés par des collectivités locales, territoriales. Le fait d'avoir ce principe aussi de
ce sera le principe du local plutôt que du principe national
sera pris en compte.
Donc le local. Sur le poulet ukrainien, la Commission européenne a finalement décidé de prolonger la baisse des tarifs douaniers, comme c'est le cas donc depuis 2 ans entre l'Ukraine et l'Union européenne, par solidarité avec le peuple ukrainien. Parmi les marchandises qui notamment viennent en Europe, il y a les céréales, les œufs, le sucre, les volailles. Et sur les volailles, il y a quand même une chose que je voudrais comprendre. 95% des poulets ukrainiens qui inondent le marché français sont en fait issus d'une giga-entreprise qui s'appelle MHP et qui appartient à un seul homme, un homme d'affaires qui s'appelle Yuri Kosiuk. Et son entreprise, elle est immatriculée à Chypre. Est-ce que vraiment c'est pour favoriser le peuple ukrainien?
Alors, d'abord, peut-être pour nos téléspectateurs, il s'agit effectivement du poulet, du sucre, vous l'avez rappelé.
Des céréales.
L'instant. Alors les céréales, non, les céréales n'en font pas partie.
Elles transitent normalement.
Voilà, alors on pourra le faire éventuellement, et des œufs. Sur les volailles, donc, puisque c'est sur quoi vous m'interrogez. Derrière, évidemment, il y a une très grande... j'allais dire multinationale.
Qui va
acheter, au fond, à des milliers de fermiers, d'hommes et de femmes qui travaillent donc dans ces exploitations, donc leurs produits, pour ensuite les transformer, et évidemment...
Parce que c'est surtout le poulet transformé, comme vous dites.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont transformés chimiquement, ça veut dire qu'ils sont...
On est bien d'accord, mais c'est plutôt de la cuisine,
prêts à la commercialisation. Et voilà, derrière, il y a pas qu'un seul homme. Il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent. C'est important. Mais il n'en demeure pas moins.
Il n'y a pas un problème là.
Bah, écoutez, ça c'est l'organisation. Je le dis derrière.
L'entreprise, elle est immatriculée à Chypre.
Oui. Et il n'en demeure pas moins qu'ils vont acheter les poulets en Ukraine. Mais voyez-vous, derrière votre question, c'est évidemment la solidarité, à la fois avec l'Ukraine, et on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez. Parce
bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Ukraine.
Mais il y a aussi l'accompagnement et le soutien à nos agriculteurs, et notamment à tous ceux de cette filière. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on allait repousser ces quotas. Avec des quotas, encore une fois, de façon à ce que les agriculteurs, mais aussi l'ensemble de toutes celles et tous ceux de cette filière soient protégés en Europe. On refera le point dans un an. C'est important d'avoir, je dirais,
considérer, parce que j'ai lu assez attentivement la décision de la Commission européenne. Elle évoque, je cite, un mécanisme de frein d'urgence, des mesures correctives rapides en cas de perturbation importante sur le marché européen, mais elle précise que aujourd'hui, elle estime qu'il n'y a aucune perturbation.
Pour l'instant, non, parce qu'on a limité. Il y a des quotas. On a repris encore une fois ce qui s'était passé en 2022. Donc on a les références, on les garde. Ça ne déstabilise pas le marché.
Vous estimez que ça ne déstabilise pas le marché.
C'est ce qui a été considéré et je crois que ça a été accepté également par tous les acteurs de la filière.
Sur le Mercosur, est-ce que vous aussi vous dites on fait vraiment une pause comme le dit Emmanuel Macron?
Oui, ça a été très clair et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on discute du Mercosur.
Oui.
Et ce qui est clair, c'est qu'il faut de plus en plus, on s'en rend compte, cette notion, je dirais, de souveraineté qui doit être maintenant incluse, y compris dans nos accords de libre-échange. Ce n'est pas encore le cas. Doit être désormais vraiment prise en compte, avec derrière évidemment les clauses de réciprocité et les clauses miroirs. Et c'est évidemment pas le cas du tout. Il y a également d'autres considérations qui doivent être prises en compte, comme par exemple le respect des accords de Paris, comme tout un tas de considérations qui, je dirais, aujourd'hui font partie de notre tronc commun pour pouvoir produire en Europe et qui doivent être évidemment en réciprocité, pris en considération par ceux, et notamment, je rappelle quand même que cet accord, ça concerne 760 millions de consommateurs, ce serait l'accord le plus important qu'on ait signé, donc ça nécessite d'y réfléchir à deux fois. Pour l'instant, c'est clair, le compte n'y est pas.
Le compte n'y est pas.
Et donc, c'est ce qu'a dit le président de la République. En ce qui me concerne, moi, à titre personnel, évidemment, je le soutiens parce que j'estime que ces clauses de réciprocité sont extrêmement importantes.
Bon, ben voilà. Ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, vous êtes le commissaire de tous les Européens et dans le même moment, au moment même où on entend Emmanuel Macron qui dit attention, on freine, voire même on stoppe, on a les chefs de gouvernement allemands et espagnols qui disent, eux, qu'ils souhaitent le plus vite possible cet accord. Comment on fait?
Oui, bien sûr, mais c'est ça l'Europe.
Oui, j'imagine, mais
en ce qui concerne ma responsabilité.
Je voudrais juste m'assurer qu'on apporte la même réponse à tout le monde.
En ce qui concerne ma responsabilité à moi, qui était une responsabilité de commissaire au marché intérieur, j'estime que le compte n'y est pas sur ces critères, notamment de souveraineté et de réciprocité. Pour moi, la réciprocité va devenir un enjeu absolument majeur.
Ce qu'on appelle les clauses miroirs, c'est-à-dire vraiment s'assurer qu'on ne fait rentrer en Europe que ce qu'on y autorise.
C'est la fin de l'Europe naïve. On est évidemment ouvert, mais pas ouvert à tout vent. Souvenez-vous, lorsque j'étais en charge des vaccins et que je devais augmenter la base industrielle de production de nos vaccins, je me suis rendu compte que toutes nos usines européennes qui étaient installées aux États-Unis n'avaient pas la possibilité de réexporter en Europe leurs produits parce que les Américains avaient fermé leurs frontières. J'ai donc dit, moi, j'ai demandé d'avoir la même clause miroir en Europe, on a fermé nos frontières.
Et vous l'avez obtenu.
Et je l'ai obtenu. Et du coup, j'ai rouvert les chaînes de valeur avec les États-Unis. La notion, désormais, c'est la notion de réciprocité et derrière le rapport de force, est une notion qui me semble être désormais indispensable dans tous nos accords de libre-échange, mais également dans les relations que nous aurons avec d'autres continents dans les années qui viennent, compte tenu de l'évolution géopolitique
du monde. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces images, Thierry Breton? On a vu des camions qui provenaient notamment d'Espagne, qui devaient transiter, voire même arriver en France, qui ont été arrêtés par des points de blocage, par des agriculteurs, qui ont vérifié la marchandise. Et lorsque la cargaison, c'était notamment des fruits et des légumes qui venaient d'Espagne, ils les ont parfois jetés, voire même détruits. Une parlementaire espagnole a accusé les autorités françaises de ne pas avoir pris la mesure de ces oppositions. Elle dit, nous allons demander à la Commission européenne de prendre des mesures. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Elle a eu raison. Ceci est inacceptable, inadmissible. On peut entendre, évidemment, et on l'a entendu, les doléances, les revendications du monde agricole. C'est le moins de le dire, tout au cours de la semaine dernière, que ce soit à Paris, à Bruxelles ou dans d'autres capitales. Il n'en demeure pas moins que la libre circulation des produits, elle doit être assurée. Donc ceci est inacceptable et du reste, doit être puni par la loi.
L'Ukraine une aide de 50 milliards qui a donc été débloquée pour aider l'Ukraine. Vous plaidez également pour un fonds de 100 milliards d'euros qui permettrait de développer une défense européenne parallèle à l'OTAN.
Alors, d'abord, sur le premier point, c'était extrêmement important d'avoir ce soutien à l'Ukraine. On s'en souvient, il y a eu des discussions, et notamment avec avec la Hongrie, et finalement, l'Europe continue à avancer, et avancer unie, quelles que soient les crises auxquelles elle est confrontée. Je crois que c'est la première leçon. Ces 50 milliards, ils sont pour les 4 prochaines années, c'est très important. Il y a 17 milliards de dons, et le reste, c'est de la dette, hein, je le rappelle.
C'est du prêt.
Des prêts. Il n'en demeure pas moins que c'est absolument nécessaire pour que l'Ukraine puisse avancer et lutter contre cette guerre d'agression qui a été voulue par Vladimir Poutine. Et je le redis, l'Europe continue à avancer unie. Quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on ait pu lire, l'Europe continue à avancer unie parce que derrière, c'est aussi de la sécurité de l'Union européenne dont il s'agit.
Doit-elle être unie jusqu'à l'idée peut-être de partager le siège européen, le siège français à l'Union?
Non, on n'en est pas du tout là. Moi, j'ai pas à me prononcer là-dessus, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Alors, sur le deuxième volet de votre question qui concerne évidemment la défense européenne, bien sûr, pour pouvoir faire face aux demandes de l'Ukraine, notamment en termes de munitions, on l'a fait, mais aussi en termes de matériel, évidemment, d'artillerie et autres, il est indispensable d'augmenter notre base de production de défense. Et pour ce faire, nous avons donc proposé, j'ai travaillé avec mes équipes, sur ce qu'il faudrait pour un prochain mandat, parce qu'évidemment, c'est pas maintenant qu'on va pouvoir le faire d'ici les élections, mais mon rôle, c'est de donner toujours une vision. Oui, je pense qu'il faut avoir les moyens d'augmenter significativement notre soutien à l'industrie européenne de défense pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres. On l'a fait avec les munitions. Je rappelle qu'on avait pris l'engagement de produire plus d'un million de ces fameuses munitions d'artillerie lourde, donc les obus de 155 en un an. En 10 mois, on l'a fait. On produit maintenant plus d'un million par an en Europe. À la fin de l'année, on sera à 1,4 million. L'année prochaine, à 2 millions. L'Europe, quand elle s'en donne les moyens, sait avancer pour soutenir l'Ukraine, mais aussi pour sa propre sécurité.
Merci Thierry Breton d'être venu répondre à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le commissaire au marché intérieur.